l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3900 francs par jour seulement.
Et ce matin, on va s'intéresser au projet FALA. Nous recevons pour en parler Jean-Marie Fautzing, professeur des universités et porteur scientifique du projet FALA. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Merci d'être avec nous alors qu'a lieu cette semaine la conférence finale du projet FALA. On va voir que ce n'est pas forcément la fin du projet pour autant. C'est un projet qui dure depuis 4 ans maintenant, qui a mobilisé une centaine de scientifiques dans la région. Est-ce qu'on peut rappeler le cadre et l'objectif du projet FALA ?
Je me permets déjà de rectifier la durée parce que le projet dure déjà depuis plus de 5 ans et quand on va y ajouter...
Il y a eu la crise sanitaire qui a un peu décalé.
Voilà, il y a eu la crise sanitaire, mais cette crise sanitaire a permis à l'équipe porteuse du projet, à l'équipe scientifique, de restructurer et organiser les événements scientifiques qui allaient se dérouler chez les différents partenaires et d'attendre l'ouverture des frontières pour les déployer. Donc c'est ce qui s'est passé à partir de juillet 2022, alors que la conférence de lancement s'est faite à Nouméa en novembre 2020. Donc le projet a suffisamment duré, et même s'il n'est pas à la fin, l'investissement vaut la peine que l'on le mène jusqu'à son terme, en décembre 2025.
Alors ce projet FALA, c'est lié à l'agriculture familiale dans la région et au niveau des, notamment dans un contexte insulaire, c'est bien cela ?
Oui, je vais rappeler quand même la spécificité du projet FALA au regard du contexte des îles du Pacifique insulaire qui sont soumises à des changements très très rapides, des transitions qui portent des conséquences assez déplorables sur la santé, notamment les maladies non transmissibles, l'obésité, etc. Donc la question de l'alimentation, de l'activité physique, du mode de vie et de la santé sont au cœur du projet FALA et avec une approche pluri- et transdisciplinaire. Donc les îles, comme vous le savez, et très peu de personnes, la science ne les a pas abordées dans leur spécificité réelle. Les îles sont des territoires fragmentés, donc des espaces contraints et terminés. Le moindre déplacement dans les îles pose des problèmes incommensurables. Or, le premier besoin des populations, c'est de bien se nourrir, c'est de se mouvoir, mais en même temps d'être en bonne santé. Et la question donc se pose, et l'Europe nous a donné l'opportunité de déployer notre programme de recherche sur 4 terrains d'application de Nouvelle-Calédonie, les îles Fidji, Salomon et le Vanuatu, ouais. Donc pour revitaliser cette agriculture familiale, mais surtout faire le point des connaissances traditionnelles sur cette activité qui marque le premier rapport très étroit entre l'homme et son environnement.
Est-ce qu'on a les mêmes problématiques dans ces quatre territoires ou est-ce que ce sont des problématiques différentes et est-ce que les savoir-faire sont les mêmes ?
Les problématiques sont les mêmes au regard des changements dont j'ai parlé, ensuite des effets du changement climatique qui sont particulièrement menaçants pour les îles. Par contre, il y a des spécificités. En Calédonie, on a une, je ne dirais pas confrontation, mais une juxtaposition entre agriculture familiale, mais la grande agriculture également. Et on voit très bien que les politiques publiques sur ces deux activités qui ont la même finalité ne s'appliquent pas de la même façon. Au Vanuatu, on a plutôt un espace marqué par davantage de ruralité, mais dans lequel l'extension territoriale face aux crises climatiques, et notamment les cyclones, laisse quand même la place pour que l'aide alimentaire apportée après chacun des événements puisse d'abord se contenter de la production locale. Aux îles Salomon, c'est encore une autre problématique puisque l'urbanisation reste, même si elle est importante, elle est relativement limitée comparée à Nouméa. Donc, c'est quelques nuances que nous mettrons en évidence dans les recommandations aux politiques publiques qui vont d'ailleurs suivre les travaux qui se sont déroulés cette semaine et qui vont nous conduire jusqu'à la fin de l'année.
Alors vous l'avez dit, 50 travaux pour être tout à fait précis. Vous allez faire les recommandations en toute fin de ce projet. L'idée c'est quoi ? C'est de permettre aux institutions, aux décideurs d'avoir des éléments pour mener les bonnes politiques publiques selon les scientifiques ?
Bien évidemment. La science d'abord fonctionne sur des objectifs cadrée en lien avec les problématiques scientifiques, mais elle a pour mission d'accompagner l'évolution sociétale sur tous les aspects et notamment d'apporter sa contribution aux problématiques qui touchent au bien-être des populations. Donc, sans recommandation aux politiques publiques, je pense que la science devrait plutôt revoir son positionnement. Et quand on voit les budgets qui sont alloués à ces programmes de recherche, le minimum, c'est de contribuer efficacement au processus décisionnel. Alors, même si les scientifiques ne décident pas, ils doivent faire quelques recommandations ciblées au regard des spécificités de chacun des pays et territoires d'application.
Vous venez d'évoquer le coût des travaux et vous en avez parlé très rapidement au début de cet entretien. C'est l'Europe qui finance ce projet FALA. C'est signe déjà qu'on est face à un projet d'envergure et de qualité, puisque c'est très rare. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois que l'UNC avait des fonds européens sur ce type de programme.
Oui, c'est la première fois que l'UNC décroche un projet Horizon 2020. Aujourd'hui, ces projets, c'est Horizon Europe. Donc c'est des projets très sélectifs et le score qu'a obtenu l'UNC lui a donné l'accès à la totalité des financements qui devaient accompagner les mobilités des chercheurs entre l'Europe et les territoires du Pacifique. Donc ces financements, même s'ils sont insuffisants pour déployer l'activité de recherche au regard de l'insularité qui fait que quand on est sur la Grande Terre, on n'est pas à Lifou. Quand on est à Lifou, on n'est pas à Marée. Et encore moins, si on est à Marée, on n'est pas à Ouvéa. Donc, il y a une autre problématique, celle des déplacements, mais la spécificité des pratiques traditionnelles est adaptée aux environnements insulaires et compte tenu de la taille et des configurations de ces îles, il est important de faire une synthèse assez précise et claire des pratiques pour pouvoir faire des propositions de généralisation.
Alors comment ça s'est passé concrètement sur le terrain ? Donc on le disait, à peu près une centaine de chercheurs, 95 il me semble. Vous vous êtes rendu dans chaque territoire pour étudier cette agriculture, étudier ses modes de vie, étudier la santé aussi des populations ?
Oui, le projet a été obtenu dans le cadre des RISE Research Innovation Staff Exchange. Il s'agit donc, il est fondé sur la mobilité des chercheurs avec les chercheurs du Nord et les chercheurs des pays tiers qui se retrouvent sur le terrain en deux catégories, les jeunes chercheurs et les chercheurs confirmés, partagent leurs expériences, prennent en compte les travaux de recherche qui ont déjà été effectués, identifient les nouvelles pratiques, d'où d'ailleurs la structuration de cette conférence finale en quatre axes, les deux premiers axes étant la place des acteurs de l'agriculture familiale, le second, le système alimentaire et les modes de vie et de santé, une forme de cadrage et de repositionnement, et les deux autres axes qui se proposent de répondre aux questions, quelle voie pour reconstruire les connaissances et les pratiques traditionnelles parce qu'elles sont en voie de déperdition du fait de la non-transmission et de l'absence de cadrage pour accompagner et pérenniser ces pratiques, mais aussi quelle place pour l'aide publique internationale, mais aussi les politiques publiques et l'accompagnement de la petite agriculture qui, dans certains secteurs, est en concurrence avec la grande agriculture dont on connaît les effets sur l'environnement. Donc, ces déplacements vont se poursuivre puisque le programme n'est pas terminé. Ils iront jusqu'en décembre 2025. Et en même temps, les équipes scientifiques, au regard des groupes de travail, vont préparer les restitutions pour les recommandations aux politiques publiques.
Ça va prendre quelle forme concrètement ? Juste des recommandations, on va y avoir toute une documentation sur comment se porte l'agriculture, les modes de vie, etc. dans les différents territoires.
Déjà, au stade actuel, et les présentations qui ont été faites cette semaine ont donné une vue assez générale des orientations à prendre pour améliorer et redonner toute la place que mérite l'agriculture familiale pour la construction du bien-être des populations et puis la protection de l'environnement. Donc il s'agit maintenant d'aller de façon beaucoup plus concrète, territoire par territoire, et de prendre les différentes entrées thématiques, l'agriculture familiale, le mode de vie, les activités des populations intergénérationnelles. On ira jusqu'à faire des propositions sur les programmes scolaires. Quand on voit l'engouement qu'ont eu les élèves de l'école primaire à visiter nos jardins pédagogiques expérimentaux, on se dit qu'il y a quelque chose à faire, et ce serait plutôt la formation hors des murs.
Donc c'est quelque chose de très holistique finalement.
Oui, c'est très holistique, mais concret. On est dans la dimension mise en œuvre opérationnelle des résultats de recherche et avec propositions pour faire évoluer les programmes scolaires, etc.
Très concrètement, même s'il n'y a pas encore les recommandations, qu'est-ce qui ressort de cette conférence finale? Est-ce qu'on a déjà, vous le disiez, des orientations sur ce qu'il faudrait mettre en place, par exemple pour la Nouvelle-Calédonie?
Nous avons eu la chance que le projet déposé en 2019 s'est retrouvé en face d'une situation clairement exprimée par les conséquences de la crise sanitaire. Donc l'insularité, nous avons été les derniers touchés, et en même temps parce que nous avons eu le contrôle de nos frontières, etc. Donc déjà, les circuits courts sont une recommandation forte parce que il a fallu ne compter que sur les productions locales, dont l'importation qui semblait dans le contexte de la mondialisation être la solution s'est avérée être insuffisante. Ça, c'est déjà une première piste. Mais on se rend compte que dans les orientations de recherche, très peu d'investissements sont accordés à l'étude et à l'analyse de ces systèmes et pratiques traditionnelles. Donc une deuxième recommandation, c'est une meilleure prise en compte pour pérenniser ces savoirs et ensuite permettre qu'elles soient intégrées dans les programmes scolaires et également. On voit aussi que l'activité physique n'est pas nécessairement exclusivement limitée à l'effort physique très intense, mais un déplacement d'un point A à un point B pour une activité agricole de quelques mouvements, ça suffit pour déjà réduire l'obésité et donner aux populations quelques pistes pour lutter contre la sédentarité. Je ne vais pas dévoyer ici toutes les recommandations, mais on a déjà un certain nombre. On va simplement les organiser pour les rendre plus opérationnels.
Vous venez de parler de la crise Covid. On a eu aussi l'insurrection de mai dernier, les violences et notamment les blocages des routes. Donc le locavorisme, on va dire, en tout cas la production locale est là aussi très important. On l'a vu avec la Chambre d'agriculture qui a mis en place un certain nombre de marchés locaux. Est-ce que là aussi le contexte post-violence de 2024 et peut-être même au niveau de l'économie et des gens qui cherchent un certain nombre de ressources, est-ce que ça joue aussi, est-ce que ça peut être des débouchés pour un certain nombre de populations?
Mais bien évidemment, la question de la santé passe aussi par la sécurité alimentaire. Et pouvoir se nourrir en ayant la traçabilité de ce qui est produit et nous amène à circonscrire les zones de production et les zones de consommation à proximité. Il y a une place importante dans le projet FALA pour la mise en culture des espaces inconstructibles. Donc l'urbanisation peut aller de pair avec les corridors écologiques dont certains seront mis en production agricole. Donc la situation de crise qu'a connue la Nouvelle-Calédonie nous a apporté en complément de la situation sanitaire mondiale la nécessité des circuits courts et que les populations puissent prendre en main leur destin. Les importations, généralement, sont à la fois porteuses de difficultés pour une répartition équitable à l'ensemble de la population, mais aussi les effets sur l'environnement sont néfastes.
Jean-Marie Fautzing, est-ce que vous sentez que les autorités sont à l'écoute du projet Fala, en tout cas sont intéressées par vos travaux? On sait que ce que vous venez de dire, là, le mangeons local, entre guillemets, c'est le slogan de la Chambre d'agriculture et de la pêche. Est-ce que les pouvoirs publics sont suffisamment sensibilisés à ces questions-là, selon vous?
La recherche ne cherche pas à imposer son point de vue, mais elle doit accompagner le processus décisionnel. Quand on voit que la jeunesse, qui est la clé par laquelle ces propositions vont prendre corps dans la société, elle est à l'école et elle veut bien, elle mange à la cantine. Quand on voit le nombre de repas qui sont distribués à la cantine et les efforts des institutions locales à mettre des produits locaux dans l'alimentation, on a déjà quelques pas qui sont faits, Pacific Food Lab, mais c'est insuffisant. Nos orientations vont indiquer qu'il faudrait les généraliser. Or, la cantine, c'est le lieu d'apprentissage de l'alimentation des jeunes, et cette cantine devrait pouvoir être alimentaire proximité, d'où des jardins à l'intérieur des établissements scolaires, en lien avec l'internat, etc. C'est des mesures qui sont concrètes, opérationnelles, mais nous ne décidons pas la place des politiques, nous accompagnons leur processus en leur faisant part des orientations qu'indiquent nos résultats de recherche.
Merci beaucoup Jean-Marie Fautzing d'avoir été avec nous, et si on a bien compris, on vous retrouvera en fin d'année pour les différentes recommandations.
Oui, vous me retrouverez en pointillé puisque j'ai fait valoir mes droits à la retraite après l'extension jusqu'au niveau maximum. Mais je reste membre actif du projet et j'en profite pour saluer tous mes collaborateurs du Pacifique, Australie, Vanuatu, Îles Salomon, qui se sont associés à nous pour accompagner ce projet, et en particulier Olivier Galli qui va en assurer le portage et la coordination scientifique, même si j'en ferai partie. Ce sera un pointillé.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis, bonne retraite, alors.
Merci également. Mais vous savez, la retraite chez les professeurs d'université, c'est une récréation, mais interrompue par des expertises ponctuelles, comme l'accompagnement de projets dans lesquels on a été impliqué.
Eh bien, merci, en tout cas, d'être venu nous parler du projet Fala, ce matin.
Merci de m'avoir accordé cette opportunité pour parler de ce projet.
L'invité du matin vous a été proposé par Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs par jour. Seulement 3 900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.